Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Nadia de Nanner Podcast. Avant que tu découvres ce nouvel épisode, j'aimerais te parler de Yes Podcast. Yes, c'est le podcast qui m'a donné la force de me lancer. C'est un podcast féministe et résolument positif. Deux fois par mois, Margaïde, Elsa et Anaïs célèbrent nos victoires de femmes contre le sexisme sous toutes ses formes. Yes, c'est pour toi, c'est pour nous, c'est pour toutes les warriors du quotidien. Tu peux les écouter sur toutes les plateformes d'écoute. Je viens d'une famille marocaine, mais je suis la première à être née en France. À la maison, ça parlait marocain et berbère. C'est donc la première langue que j'ai parlé, ma langue maternelle, ma langue d'origine. Jusqu'à l'arrivée à l'école, où pendant quelques temps, je me suis tue. J'ai observé, en silence. Et j'ai fini par apprendre le français, et à naviguer entre ces langues en m'adaptant selon le lieu où j'étais. Le marocain est devenu la langue que je ne parle qu'avec ma mère, et mon vocabulaire s'est arrêté aux choses relatives à la maison et à l'intime. Je n'ai pas cherché à en savoir plus sur cette langue, ces langues même, car l'arabe et ses dérivés sont plus complexes et diversifiés qu'on ne le pense. Je ne sais pas si c'est parce que j'avais honte, si j'avais peur de me tromper, si c'est parce que je rejetais cette partie de moi, ou parce que je voulais me débarrasser des traditions que j'associais à la langue. السلام عليكم انا ناديه مرحبا بكم في نانر بودكاست سمحوا لي ما كنهضرش عربيه مزيان c'est avec mon tout petit niveau de marocain que je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode on va parler de langue arabe et surtout de la relation parfois tumultueuse qu'on entretient avec elle il y a quelques années j'ai entrepris un processus de paix en prenant des cours d'arabe pour apprendre à le lire et l'écrire aujourd'hui je parle toujours marocain comme une enfant de 5 ans je ne parle pas arabe par contre mais je peux écrire mon prénom et réciter l'alphabet Drôle de relation, n'est-ce pas ? Et je continue à en apprendre un peu plus chaque jour dans un pays où ces langues sont encore dévalorisées, stigmatisées et méconnues. À nos identités plurielles. Pour parler de tous ces sujets relatifs à la langue arabe, j'ai eu le plaisir de discuter avec Nabil Wakim. Nabil est journaliste au journal Le Monde. Dans son livre « L'arabe pour tous, pourquoi ma langue est taboue en France ?», il raconte son rapport à cette langue, sa langue d'origine, qu'il a perdue en cours de route. C'est aussi un livre politique où il interroge la place qu'a l'arabe en France et tous les stéréotypes auxquels elle est associée. Bonjour Nabil et merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour.
Nabil, tu es né en 1981 à Beyrouth pendant la guerre civile. Tu es arrivé en France à l'âge de 4 ans. L'arabe est donc la langue de ton enfance. Et pourtant, aujourd'hui, tu dis être nul en arabe. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors effectivement, c'est un peu ce que je raconte dans ce livre qui s'appelle « L'arabe pour tous », qui raconte à la fois mon histoire personnelle et puis je pense l'histoire de d'autres enfants issus de l'immigration comme moi. Donc moi je suis né au Liban, on m'a parlé en arabe quand j'étais petit, c'est donc ma langue maternelle. Et puis quelque part entre mes 4 ans et mes presque 40 ans, ben j'ai perdu l'arabe en cours de route. Et si je l'ai perdu, je pense que c'est... pour plein de raisons, mais notamment parce que pendant longtemps, et notamment pendant mon adolescence, j'avais pas envie de parler l'arabe, j'avais honte de cette langue, je m'y identifiais pas du tout, et j'avais pas du tout envie de l'utiliser dans la vie, ni d'être identifié à quelqu'un qui parle arabe, et à un arabe tout court. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai eu envie d'écrire ce livre. Pour moi, c'était une sorte de reconquête, pas simplement de cette langue, mais aussi de ces questionnements autour de l'identité et de la langue.
Et quand est-ce que tu as réalisé que tu l'avais perdue, cette langue ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies ce déclic ?
En fait, c'est assez curieux, mais quand j'étais étudiant, je suis parti en Espagne pendant un an, comme beaucoup d'étudiants français. Je suis parti faire une année Erasmus et là-bas, j'ai appris l'espagnol. Il se trouve que j'étais en Andalousie, qui est une terre marquée par l'histoire arabe et où la manière de parler l'espagnol est très influencée par l'arabe. Je parlais très mal l'espagnol en arrivant et très bien en partant. Et je savais très bien prononcer plein de sons qui existent en espagnol, les A, les RA et les RA, qui bizarrement sont des sons qui existent aussi en arabe pour des raisons qui s'expliquent de manière évidente. Et en revenant, je me suis dit, tiens, mais c'est bizarre, j'ai appris l'espagnol assez facilement. Pourquoi j'apprends cette langue avec laquelle j'ai pas de lien ? Alors qu'en fait, il y a une langue qui est dans ma vie, dont les sons sont assez proches, les sonorités sont assez proches, et dont je ne sais finalement pas grand-chose. Et quand je suis rentré d'Espagne, j'avais une vingtaine d'années, je suis allé voir ma mère, et je lui ai dit, mais en fait, j'aimerais bien maintenant qu'à partir de maintenant que tu me parles en arabe. Et elle m'a dit, ben, écoute, c'est un peu tard, quoi. Maintenant, c'est pas évident que j'arrive à te parler en arabe tous les jours ou quand on discute parce qu'on s'est tellement habitué à se parler en français. Et donc, je pense que c'est un peu à ce moment-là et cette prise de conscience du fait que j'avais perdu l'arabe, elle est arrivée finalement assez tardivement et elle s'est renforcée ensuite dans ma vie. Ensuite, je suis devenu journaliste. Et en devenant journaliste, ben souvent j'ai été amené à parler de sujets qui ont rapport avec le monde arabe. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, ben contrairement, y compris à certains collègues français qui ont appris l'arabe parce que ça les intéressait et qui l'ont appris de manière tout à fait académique, et ben en fait, moi j'étais incapable de lire en arabe, j'étais incapable d'écouter la radio en arabe ou la télévision. Et donc, quand il se passait des événements d'actualité dans le monde arabe, ben, j'étais incapable de les comprendre en langue arabe. Et donc, du coup, je me suis senti ridicule. Et là, j'ai essayé de réapprendre l'arabe, mais là, j'ai connu pas mal de difficultés.
Louisa a 40 ans. Dans quelques jours, elle commence les cours d'arabe pour débutantes. On ne lui a pas transmis la langue de ses parents, qui a trop souvent été source de honte et de moquerie.
Je m'appelle Louisa, j'ai 40 ans, et dans quelques jours, je vais commencer des cours à l'Institut du monde arabe, arabe dialectal algérien niveau débutant. C'est ce qui est écrit sur l'affiche. Je suis très contente d'entamer cette étape dans ma vie après avoir passé plusieurs années à être un peu dans le refus, la colère, le déni peut-être un peu. En fait, moi je suis issue d'une famille nombreuse, j'ai 5 frères et on a tous ce point commun, c'est d'avoir des parents qui n'ont malheureusement pas réussi à nous transmettre leur langue. Donc maman, elle est d'Alger et elle parle arabe et français. Et papa est kabyle et donc il parle le kabyle, l'arabe et le français. Et lorsque nous étions petits, il faut se rappeler du contexte de la France des années 70 et 80. C'était une France où on disait aux jeunes et aux moins jeunes, en tout cas les personnes d'origine maghrébine, on leur disait qu'elles devaient s'intégrer, comme si elles étaient différentes. Il fallait qu'elles rentrent, il fallait s'intégrer, quoi. Donc, et pour s'intégrer, il fallait absolument parler français. Et donc, maman a eu vraiment ce complexe-là. Et j'insiste sur maman parce que on y reviendra, mais on dit langue maternelle, ce qui n'est pas un bon terme. On devrait dire langue d'origine ou langue natale. Mais on fait peser sur les mères une pression, une charge mentale énorme. Et donc, c'est à maman en particulier qu'on a dit, quand je dis on, c'est mes tantes et la famille, un peu tout le monde, pourquoi tu n'as pas réussi à leur transmettre la langue. Maman, elle travaillait et était secrétaire comptable. Et pour elle, c'était très important qu'on soit bon à l'école, qu'on ne se fasse pas remarquer négativement, pas qu'on rase les murs non plus, mais qu'on soit quand même discret. Et il fallait qu'on soit vraiment bon, qu'on soit bon en français. Donc elle faisait tout pour... voilà, on révisait les leçons, on faisait le maximum. Et le français, c'était la première chose qu'il fallait transmettre. Mon père, je pense qu'il suivait un peu le mouvement. Et tous les deux, ils se sont surtout dit, il faut qu'il soit bon en français, il faut qu'on leur enseigne le français. Et ils n'ont pas su... Alors apparemment, il y a des familles qui arrivent, et c'est tant mieux à transmettre 2, 3, 4 langues à des petits-enfants, parce que c'est ce qu'on apprend, c'est qu'à tout petit, 2-3 ans, on est des vraies éponges, et c'est plus facile pour les enfants d'apprendre plusieurs langues. Ils n'ont pas su... Je leur en ai voulu pendant un temps, parce que je me disais, pourquoi mes tantes, elles ont réussi? Pourquoi mes cousins, ils parlent arabe? Et mes cousines aussi, pourquoi nous, on est différents? Dans une même famille, pourquoi? Comment ça se fait? C'est vrai que je me suis dit, je suis d'origine algérienne, j'ai un papa kabyle, j'ai une maman algéroise, et je suis connectée à ça, par mes parents, par mes grands-parents, par mes tantes, par mes cousins, par mes cousines, par les vacances qu'on a passées tous les étés jusqu'aux années noires. Et après, on a fini par y retourner pour certains, et pour moi un petit peu. Je suis la seule fille. Mais j'avais toujours ce côté quand j'étais petite, mais comme j'étais très entourée, c'était pas grave. Je me disais, je comprends pas la langue qu'il y a autour de moi, je ne la comprends pas. Mais c'est pas grave, on est entre cousins et les cousins ils nous parlent français, donc ça va. Et le français est très présent à Alger, donc ça allait. Et je me souviens d'un truc qui me fait encore rire aujourd'hui, c'est que pour la première fois, j'ai entendu à Alger la chanson de Police de Sting. Message in your bottle, donc c'est dans les paroles, dans les refrains, ça fait send it on an SOS. Et comme c'était allégé, moi j'ai compris 5 dinars le SOS. Ça s'appelle une hallucination auditive. Et j'ai trouvé ça très drôle parce que je me disais, bon, bah, j'ai peut-être compris un seul truc d'arabe qui est un peu arabe, un peu français. Et en fait, non, j'avais un peu tout mélangé. Mais c'est vrai que il y avait ce malaise parfois, cette impression d'être vraiment le cul entre deux chaises, donc entre Alger et Paris, enfin la région parisienne, d'où je suis originaire.
Tu dis quand même que tu comprends l'arabe, mais que tu ne parles pas. Il y a quand même une espèce d'entre-deux linguistique dans ta vie.
Oui, et je pense comme beaucoup de gens, c'est-à-dire que l'arabe a été quand même une langue parlée dans la maison dans laquelle j'ai grandi, puisque mes parents, et particulièrement ma mère, me parlaient en arabe, mais dans un champ lexical assez restreint. C'est-à-dire, c'est vraiment l'arabe de la maison, range ta chambre, finis tes falafels, prépare-toi pour aller à l'école, tout ça, il n'y a pas de problème, ça je comprends très bien en arabe. Par contre, s'il faut parler de politique, d'amour, de problèmes de société, du changement climatique, tout ça, ça n'existe pas pour moi en arabe, ou ça n'a longtemps pas existé, parce que c'est un vocabulaire qui n'était pas celui parlé à la maison. Et je crois que dans cette dimension-là, il y a pour moi une dimension qui est personnelle, mais qui en fait, au fond, est assez politique et concerne beaucoup de familles immigrées, c'est-à-dire où la langue d'origine, et là en l'occurrence l'arabe, est parlée à la maison, mais elle est en quelque sorte confinée, c'est un mot à la mode, mais elle est utilisée à l'intérieur de la maison, mais pas à l'extérieur. Et ma mère m'a dit, et d'ailleurs à l'occasion de l'écriture de ce livre, qu'en fait, elle ne me parlait pas volontairement l'arabe à la sortie de l'école, parce qu'elle n'avait pas envie d'être identifiée, elle aussi, à cette langue, dans un pays dans lequel on lui adosse un certain nombre de stéréotypes. On pourra y revenir. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'assez courant dans les gens que j'ai rencontrés dans mon livre, c'est-à-dire l'idée que la langue arabe, hein, c'est la langue de la maison et c'est pas forcément la langue du dehors. C'est pas la langue de l'école, pas la langue du travail. C'est une langue familiale dans laquelle on dit des émotions, dans laquelle on donne des injonctions. Voilà. Et donc, par là même, c'est beaucoup une langue du coup de transmission, comme toutes les langues d'immigration. Mais ça m'a posé moi derrière un certain nombre de problèmes pour pouvoir utiliser cette langue, par exemple, dans ma vie professionnelle.
Et toi, quand tu étais adolescent et jeune adulte, est-ce que tu avais honte ou est-ce que cette langue était plutôt de l'ordre de l'intime ? Comment tu te sentais intimement avec cette langue ?
Alors moi, quand j'étais ado, j'avais pas envie d'avoir l'arabe dans ma vie. J'allais en vacances au Liban, on me parlait en arabe, je répondais en français. J'avais pas envie d'être... je raconte dans le livre que j'amenais avec moi, un été où j'ai amené avec moi l'intégrale de la série des Rougon-Macquart d'Émile Zola, sans me rendre compte à l'époque de l'espèce de caricature que c'était de rester enfermé dans ma chambre à lire Émile Zola plutôt que de découvrir le Liban et d'essayer de parler en arabe avec ma famille. Et c'est vrai que c'est pas du tout une langue qui m'intéressait. Et j'avais pas envie qu'on me parle en arabe et j'avais surtout, moi, pas envie de parler l'arabe. Alors mes parents ont pas énormément insisté pour qu'on parle l'arabe, mon frère et moi, puis ensuite ma sœur qui est plus jeune. Mais ça a changé, effectivement, quand je suis devenu un jeune adulte, et que là, je me suis dit, ah bah zut, en fait, j'ai perdu quelque chose. Et ça a encore plus changé quand je suis devenu père. J'ai une fille qui a aujourd'hui 5 ans et demi. Et en fait, là, je me suis senti bête, parce que je me suis dit, mais en fait, j'aimerais bien qu'elle aussi, elle a un rapport avec la langue arabe. Finalement, cette langue, elle existe dans mon histoire, dans ma vie. C'est ma culture, c'est mon patrimoine. Et en fait, j'aimerais bien que ça existe pour elle. Et là, bah, je me suis senti idiot. Et là aussi, j'ai eu honte, finalement, parce que je me suis dit, bah oui, je peux pas transmettre une langue que je ne parle pas. Une langue que j'ai rejetée, une langue que j'ai repoussée. Sur laquelle j'ai, enfin, une langue que j'ai pas investie finalement. Et donc, c'est aussi ça qui m'a poussé à écrire ce livre, c'était d'essayer d'écrire sur cette double honte finalement, celle de ne pas vouloir l'arabe dans ma vie à un moment, et puis ensuite, celle de ne pas être capable de parler l'arabe que ce soit en France ou quand je vais au Liban ou dans un autre pays arabe.
Tu dis que pendant ton adolescence, il y a eu un rejet. Est-ce que tu penses que la pratique d'une langue, elle révèle l'histoire et le rapport que tu as à la culture qu'on t'a donnée ?
Oui et non. C'est difficile de répondre à cette question. Il y a plein de choses qui révèlent le rapport qu'on a à une culture qui est notre culture d'origine. Et ça peut passer par beaucoup de choses. La langue, c'est un de ses aspects. La gastronomie, la manière de s'habiller, la musique qu'on écoute, la culture, les films, la littérature. Il y a plein de manières différentes. Et puis même des choses plus profondes, plus intimes. Le rapport qu'on a aux autres, notre manière de nous comporter en public, notre manière d'aimer, d'être aimé, d'être ami. Tout ça est imprégné de notre culture d'origine, qu'on le veuille ou non, d'une certaine manière. Et la langue, c'est un des aspects de ça. Mais c'est vrai que pour moi, à un moment donné dans ma vie, la langue arabe, elle a symbolisé les interrogations que je pouvais avoir sur, finalement, c'est quoi mon rapport avec le Liban ? C'est quoi mon rapport avec le monde arabe ? Et particulièrement en France, où c'est une question qui est toujours âprement débattue et qui est souvent source de polémiques, de controverses. C'est vrai que, pour moi, ça s'est cristallisé autour de ça. De dire, finalement, je connais très bien l'histoire du monde arabe, je connais très bien l'histoire du Liban, j'ai lu quantité de livres, j'ai vu des tas de documentaires sur la guerre du Liban, les problèmes politiques dans la région, sur le conflit israélo-palestinien, sur tout ça, mais finalement, je regarde tout ça comme si j'en étais un observateur extérieur, alors que je suis moi aussi héritier de cette culture-là, c'est mon patrimoine dont on parle. Et donc, pour moi, c'est vrai que la langue arabe, elle a symbolisé un peu ces interrogations-là, ces doutes-là sur, finalement, quelle est ma place ici en France, mais aussi là-bas au Liban.
Magda a 30 ans. Dès l'enfance, elle a développé un blocage dans l'apprentissage de l'arabe. Elle pense que si elle avait eu un autre accès à sa langue d'origine, elle aurait eu un rapport différent à son identité.
Mon père est marocain, il est arrivé en France à l'âge de 18 ans. Donc lui, l'arabe, c'est sa langue maternelle, il l'a apprise à l'école coranique. Il a eu un vrai apprentissage de la langue arabe, dialectale et classique. Ma mère, elle, est algérienne, elle est arrivée en France très très jeune, à 5 ans. Elle a fait tout son parcours scolaire en France, donc elle a un rapport avec la langue arabe qui est complètement différent, parce qu'en fait, elle en a développé un complexe. Du coup, elle ne voulait pas que je parle arabe quand j'étais petite, en fait. Donc, en fait, moi, j'ai vécu un peu entre les deux, avec mon père très fier de sa langue et qui voulait me la transmettre, et du coup, qui me parlait marocain beaucoup. Et ma mère qui n'a jamais vraiment voulu en parler, déjà, et me parler arabe. Donc, moi, en grandissant, je me trouvais un peu entre les deux. Et en fait, c'était la base d'un de mes plus gros complexes dans ma construction identitaire. Je pense vraiment que si j'avais eu un accès différent à la langue de mes parents, je me serais construite différemment de manière identitaire et j'aurais pas fait ce que j'ai fait jusque-là. En fait, ça a vraiment construit ma vie, quoi. Quand j'étais adolescente, je ne parlais pas vraiment arabe. En fait, j'avais un complexe de la langue arabe et j'avais en fait un énorme blocage parce que je refusais de parler. Je refusais de parler parce que j'avais peur de mal parler. C'est pas parce que je ne voulais pas, c'est parce que vraiment j'avais peur. Parce qu'à chaque fois que je partais au Maroc, on me demandait si enfin je parlais arabe et en fait plus on me le demandait, moi, je voulais, parce que j'avais peur de mon accent, j'avais peur de mal utiliser des mots, j'avais peur de mal utiliser des expressions. Ces questions-là de ma famille m'ont en fait pas vraiment aidée parce que c'était ça créait en fait un blocage énorme. Moi, j'étais sûre que je comprenais et je comprenais en fait. Mais parfois, je leur demandais de répéter en français parce que j'avais peur de mal comprendre. J'avais peur que, par exemple, on me pose une question à la négative et qu'en fait, c'était une affirmative, par exemple. C'est peut-être bête comme exemple, mais en fait, je pense que ça veut tout dire. Alors qu'en fait, j'avais très bien compris la question. Quand on me l'a demandé en français, en fait, je me rendais compte que j'avais tout compris. Et du coup, voilà, ça a créé un blocage énorme. Après, j'ai commencé donc mes études de droit. J'en suis arrivée à mon master Et en fait, là, je me suis dit qu'il fallait que je parte, parce qu'il fallait absolument que je règle cette question de ma construction identitaire et de mon rapport à la langue, en fait. Du coup, j'ai décidé de partir dans un pays arabe. La question du choix du pays est une vraie question, parce qu'en fait, j'en suis arrivée à un moment où je me suis dit que si je partais au Maroc ou en Algérie, j'aurais quelque chose à prouver. Et j'avais pas envie d'avoir cette pression. Du coup, je suis partie en Tunisie. Je suis partie en Tunisie aussi parce qu'à l'époque, dans mon domaine du droit international, il y avait énormément de choses à faire et c'était passionnant. Mais c'était aussi parce que j'étais en soif de culture et de langue. Et du coup, je suis partie, j'y suis restée 4 ans. Pendant 4 ans, j'ai travaillé dans un milieu qui était très tunisien. Donc tout le monde parlait tunisien autour de moi. Et en fait, je comprenais le tunisien, j'ai compris le tunisien très très vite. Je me suis habituée à l'accent et j'ai commencé à parler tunisien. Donc j'ai commencé à parler avec l'accent tunisien, avec les expressions tunisiennes. Et j'ai décidé de prendre des cours d'arabe classique. J'ai pris des cours intensifs d'arabe classique pendant 6 mois. Donc je suis restée 4 ans à Tunis et du coup en rentrant en France, je suis beaucoup plus apaisée dans ma construction parce qu'aujourd'hui, je me dis maghrébine. Je me dis maghrébine parce que je parle tunisien à ma famille marocaine et à ma famille algérienne. Et je trouve qu'en fait, c'est une force aujourd'hui et j'en suis très fière.
J'ai l'impression quand même qu'il y a une dévalorisation de la langue arabe. Du côté de ta mère, tu dis que l'arabe est valorisé, mais à un moment dans le livre, tu dis que ton père, le fait qu'il parle français, ça a été également le symbole de son changement de classe sociale.
Absolument. Et ça, je crois que ça existe au Liban parce que c'est un pays où il y a beaucoup de francophones, mais je crois que c'est aussi très présent au Maghreb, l'idée que chez un certain nombre de gens de la génération de nos parents, le français... ou bien parfois l'anglais dans d'autres pays arabes comme l'Égypte, était une clé pour s'en sortir dans la vie, que c'est ça qui permettait de progresser, que c'est ça qui permettait d'avancer, de trouver du travail, de réussir. Et que l'arabe, y compris du point de vue d'un certain nombre d'arabes eux-mêmes, n'était pas une langue qui permettait ça, n'était pas une langue de progrès. Et ça, je crois que c'est des interrogations qui existent et qui existent encore aujourd'hui au sein du monde arabe, dans les milieux intellectuels, dans les élites d'un certain nombre de pays arabes, qu'il s'agisse d'ailleurs du Maghreb ou du Proche-Orient. Et en tout cas, dans ma famille, d'une certaine manière, mon père, il le dit dans le livre tel quel, il dit pour moi la priorité c'était pas que vous appreniez l'arabe, c'était que vous parliez bien français, que vous soyez fort en maths, que vous appreniez l'anglais, des trucs qui vont vous être directement utiles. C'était différent effectivement chez ma mère. Et d'une certaine manière, eux deux, ils incarnent un peu ce débat-là. C'est-à-dire, finalement, apprendre l'arabe, c'est pas simplement un but utilitaire. Moi, j'ai pas envie d'apprendre l'arabe pour devenir spécialiste du secteur pétrolier en Arabie Saoudite. J'ai envie d'apprendre l'arabe parce que ça fait partie de ma culture. J'ai envie de connaître la poésie arabe et de pouvoir comprendre les chansons de Fayrouz, regarder des films de Youssef Chahine et comprendre... ce qui se dit aujourd'hui sur les réseaux sociaux en arabe. Et ça, c'est pas un but utilitaire uniquement, c'est pas un but professionnel, c'est aussi un but culturel et une manière de se reconnecter à une histoire qui est aussi une histoire collective.
Et ce qui est beau, c'est que j'ai l'impression que ce questionnement que tu as posé dans le livre, il t'a permis aussi de répondre à des questions que tu avais sur ton histoire, de créer un nouveau lien avec tes parents, de leur poser des questions sur ton enfance, ce que tu regardais quand tu étais petit.
Ah bien sûr, je recommande à tout le monde d'ailleurs de faire cet exercice, c'est vraiment intéressant et particulièrement je pense dans les familles où il y a des histoires d'immigration, à un moment donné de s'asseoir avec ses parents, de les enregistrer et de leur dire bon ben en fait raconte-moi comment ça s'est passé pour toi. Et pour moi c'était intéressant parce que évidemment, et je pense comme dans toute famille, la manière de raconter les choses de mon père et la manière de raconter les choses de ma mère n'était pas la même et ça m'a permis aussi de me rendre compte d'un certain nombre de choses. J'avais oublié que quand j'avais 4 ans, je parlais mieux l'arabe que le français. J'avais oublié que quand on est arrivé en France, nos parents inquiets de nous voir parler pas suffisamment bien le français, nous ont calé devant la télé pour regarder des dessins animés en français pour pouvoir s'exprimer sans accent à l'école. Évidemment, j'avais oublié tout ça, c'est des souvenirs d'enfance, mais c'est aussi des souvenirs d'enfance que quand on les regarde, qu'on peut regarder aussi avec un œil qui est un œil politique, d'une certaine manière, parce qu'ils s'inscrivent là aussi dans une histoire plus grande, qui est aussi l'histoire des familles immigrées, qu'elles viennent du monde arabe ou d'ailleurs, et le processus en France d'intégration plus ou moins difficile ou plus ou moins douloureux.
Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi en France, les familles arabophones sont parmi celles qui transmettent le moins bien leur langue, toute immigration confondue ?
Je pense qu'il y a beaucoup de raisons à ça et il n'y a pas de, réponse très très simple. Il me semble qu'il y a, une des pistes qui apparaît assez clairement, en tout cas qui m'est apparue assez clairement au fil des entretiens que j'ai fait pour le livre, c'est que dans un certain nombre de familles immigrées, consciemment ou inconsciemment, on considère que l'arabe, c'est pas une chance. C'est pas une chance pour progresser professionnellement, c'est pas une chance scolairement, et donc en fait il y a d'autres priorités, et c'est pas grave, et donc on va pas se casser la tête pour que nos enfants apprennent l'arabe, on va pas aller demander au proviseur du lycée ou au principal du collège qui ait des cours d'arabe accessibles à tous, bon, on va se débrouiller comme ça, on va parler arabe avec nos enfants à la maison. Souvent un arabe dialectal, comme je le disais tout à l'heure, souvent un arabe qui va être concentré sur les questions domestiques, mais du coup, sans essayer de d'insister là-dessus, en se disant que d'abord, c'est pas nécessairement la priorité dans un certain nombre de familles, et puis aussi c'est pas forcément toujours bien vu. Et là, on retombe sur un sujet qui est là aussi plus politique et plus large, qui est la perception qu'il y a en France autour de la langue arabe, qui est une langue qui concentre énormément de stéréotypes. Ça remonte évidemment à une époque assez lointaine, mais particulièrement à la guerre d'Algérie, plus récemment aux questions des attentats, où il y a un amalgame très fort qui est fait, arabe égale islam, islam égale islamisme, islamisme égale terrorisme, et donc on a très rapidement l'amalgame qui est fait entre la langue arabe et le terrorisme, comme si quelqu'un qui parlait l'arabe était quelque part, d'une certaine manière, par définition, un suspect, quelqu'un de douteux, voilà. Et donc, il y a un peu cette idée que la langue arabe, elle aurait ce caractère un peu de duplicité. Et ça, je crois que, même si dans beaucoup de familles arabes, on ne le dit pas comme ça, il y a une forme d'intériorisation de cette dimension-là.
Najat Vallaud-Belkacem, première femme à occuper le poste de ministre de l'Éducation nationale, a été très attaquée pour sa volonté de réformer l'enseignement des langues en primaire. Bien évidemment, la polémique est née car elle a souhaité que la langue arabe puisse être choisie comme langue vivante 1, dès le CP, au même titre que l'anglais, le portugais, l'italien, l'espagnol ou l'allemand.
Ne croyez-vous pas que l'introduction des langues communautaires dans les programmes scolaires encouragera le communautarisme qui mine la cohésion nationale ?
Madame la députée Annick Genevard, je vous dois des remerciements, vraiment pour cette question par laquelle vous avez démontré, je crois, à une grande partie de nos concitoyens, et j'espère qu'ils nous écoutent, la conception que vous vous faites, notamment de la langue arabe, qui pour vous est donc en concurrence avec l'allemand, par exemple, et doit bien entendu, si je vous suis, être moins bien traitée et être considérée comme une langue communautaire. Mais nous ne serons jamais d'accord, Madame la députée. Moi, j'estime que dans notre pays, s'il y a bien une chose à faire, c'est diversifier les langues que les élèves apprennent à l'école, car toutes ces langues ont leur légitimité et leur intérêt. Et c'est la raison pour laquelle, dans la stratégie pour les langues vivantes que je développe à l'école, je fais en sorte qu'au-delà de l'anglais, nos élèves puissent avoir accès véritablement à de l'allemand, à de l'espagnol, à de l'italien, mais aussi à de l'arabe et à du chinois, et j'en suis fière.
C'est vrai qu'il y a ce stéréotype très présent en France qui associe langue arabe à islam et islam à terrorisme. Mais il faut rappeler quand même que toi, tu n'es pas musulman. L'arabe, c'est pourtant la langue de ta famille. Tu viens d'une famille chrétienne, il me semble.
Oui, absolument. Non, mais ça, c'est vrai que c'est une confusion, qui n'est pas forcément malhonnête, souvent par ignorance, qui est faite en France. Mais la plupart des musulmans dans le monde ne parlent pas l'arabe. Les plus grands pays musulmans au monde ne sont pas des pays arabophones. Et il y a aussi des millions d'arabes qui ne sont pas musulmans. Moi, au Liban, là d'où vient ma famille, il y a beaucoup de chrétiens. Et puis, il y a beaucoup de gens dans le monde arabe qui sont effectivement chrétiens, juifs, athées, et qui sont aussi arabophones. Les juifs séfarades ont utilisé l'arabe comme langue pendant des siècles, et c'était aussi leur langue. Donc je crois que c'est important de ne pas faire cette confusion. Et puis, quand bien même L'arabe est aussi la langue du Coran. L'arabe du Coran n'est pas l'arabe qu'on parle tous les jours. Et donc là aussi, il faut faire la différence entre ce que peut avoir de sacré la langue religieuse, la langue du Coran, de la langue pratiquée tous les jours dans les différents pays arabes, qu'il s'agisse des langues de l'arabe de chacun des pays arabes ou de l'arabe dit moderne standard, qui ne sont pas exactement la même chose que la langue avec laquelle a été écrite le Coran. Et donc là aussi, il y a beaucoup de confusions qui sont faites, parfois par ignorance, parfois par malhonnêteté, parce que il y a un certain nombre de, notamment de responsables politiques ou de commentateurs politiques en France qui se sont rendus compte que cet amalgame pouvait leur valoir soit des suffrages, soit des ventes de livres, et donc qui l'utilisent à profusion. Mais c'est vrai que ça, c'est... Et d'ailleurs, moi-même, j'ai été surpris depuis la sortie du livre. J'ai souvent donné ces exemples-là, et très souvent, il y a des gens qui m'ont écrit en me disant « Ah bon, mais j'avais pas conscience du fait que on pouvait être... arabe et aller à la messe en arabe. » Voilà, oui, ma grand-mère chrétienne allait à la messe en arabe, et c'était aussi long et ennuyeux qu'une messe en latin ou en français, mais voilà, c'est en arabe. Et de la même manière que au Liban, on dit « Allah Marak » pour dire que Dieu soit avec toi, et on dit « Allah » parce que Dieu, c'est le Dieu de tous les dieux, le Dieu, quelle que soit la religion que l'on a. Et ça, c'est vrai que là-dessus, il y a une confusion très très grande qui persiste en France sur le sujet.
C'est très important ce que tu dis, car effectivement, l'arabe d'aujourd'hui, ce n'est plus l'arabe du Coran. Dans la vie de tous les jours, on ne parle pas du tout comme dans le Coran. Et tu l'as abordé tout à l'heure, mais il y a différents types d'arabes. Il y a l'arabe littéraire, celui qu'on appelle l'arabe standard moderne, celui qui est celui des médias, de la presse, qu'on ne parle pas vraiment au quotidien. Et il y a l'arabe dialectal qui varie selon les pays, selon les régions. Toi, par exemple, le dialecte que tu parles avec tes proches, je pense qu'il est différent de celui que je parle avec mes proches. Et il varie de l'Algérie, du Maroc à la Tunisie. Et c'est important de faire cette différence, effectivement.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est une des difficultés aussi, on parlait des raisons pour lesquelles c'est pas facile de transmettre la langue arabe, c'est que l'arabe est différent selon les pays. Et il y a souvent d'ailleurs une forme, y compris chez les Arabes eux-mêmes, une forme de complexe d'infériorité sur les langues, sur l'arabe marocain, l'arabe libanais, l'arabe algérien, en disant, bon, c'est pas vraiment du vrai arabe. Le vrai arabe, ça serait l'arabe littéraire ou l'arabe moderne standard. En fait, c'est quand même des langues, et elles ont la valeur de langues qui sont parlées, dans laquelle des gens grandissent et apprennent. La difficulté, c'est que pour beaucoup d'enfants issus de l'immigration en France, eh ben, l'arabe qui est parlé à la maison par leurs parents, dans ce cadre domestique, n'est pas le même que celui qu'ils apprennent s'ils sont inscrits au collège ou au lycée dans un des rares cours d'arabe qui existent. Et parce que là, on apprend l'arabe moderne, standard, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, parce que ça peut être très utile à travers l'ensemble du monde arabe, mais du coup, il y a une différence. Du coup, il y a une forme de barrière. Même s'il y a des ressemblances, il y a quand même des règles, des mots, souvent du vocabulaire, qui sont différents. Et ça, c'est vrai que ça ne facilite pas les choses.
Et ce que tu dis là révèle aussi la malhonnêteté et la méconnaissance qu'il y a eu, notamment lorsque Najat Vallaud-Belkacem a été très attaqué pour sa volonté de réformer l'enseignement des langues. C'est qu'en fait, l'arabe qu'on apprend dans ses cours n'est pas du tout l'arabe qu'on parle à la maison.
Oui, absolument. Absolument, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a eu un débat en France il y a une vingtaine d'années pour savoir quel arabe il fallait enseigner à l'école. Est-ce qu'il faut enseigner une forme d'arabe maghrébin, une forme de mix entre l'arabe algérien et l'arabe marocain, celui parlé par la plupart des immigrés arabophones en France, ou bien est-ce qu'il faut enseigner l'arabe moderne standard, qui est l'espèce de lingua franca du monde arabe. Et finalement, c'était Jack Lang qui était ministre à l'époque et qui a tranché en disant on apprend l'arabe moderne standard, et puis les programmes se sont un tout petit peu adaptés ensuite en intégrant des dimensions régionales un peu pour essayer de faire comprendre ça aux élèves. Mais du coup, c'est vrai que ça crée une forme de décalage qui est parfois difficile à gérer, d'ailleurs, pour les enseignants eux-mêmes. Une enseignante me racontait que c'était difficile parce que dans sa classe, elle avait des gens qui avaient pu faire, par exemple, une partie de leur scolarité dans des pays dans lesquels ils avaient déjà appris l'arabe moderne standard, d'autres qui sont troisième génération en France et qui ont des bribes de darija marocain, d'autres encore qui ont un niveau complètement différent et qui se retrouvent dans une même classe de seconde en langue arabe au lycée, et qui ont donc des approches qui sont complètement différentes. Et ça, c'est pas facile d'unifier ça d'une certaine manière. Et d'ailleurs, je suis pas sûr qu'au fond, il faille se dire qu'il faut que tous les Arabes en France parlent le même arabe. On s'en fiche, c'est aussi la richesse de ces différents arabes qui est intéressante. L'arabe d'Afrique du Nord, plein d'influences berbères, parfois d'influences africaines, d'influences espagnoles aussi. L'arabe irakien ou du Golfe a des influences qui sont différentes. L'arabe proche-oriental ou égyptien, encore d'autres. Et ça, je crois que c'est intéressant et qu'en fait, c'est aussi une richesse. Simplement, ça rend pas forcément toujours les choses plus faciles dans l'apprentissage.
Tu en as parlé tout à l'heure, mais tu as une fille qui s'appelle Mona, qui avait 4 ans et demi au moment du livre. C'est aussi l'âge que tu avais quand tu es arrivée en France. Tu dis aussi que le livre, il est né pour elle, que toi, aujourd'hui, tu n'es plus un enfant issu de l'immigration, mais un parent issu de l'immigration. Où tu en es aujourd'hui dans ton rapport à la langue et à la transmission que tu veux faire auprès de ta fille ?
Alors, c'est vrai que écrire ce livre m'a fait prendre conscience du fait que notre génération à nous, donc moi, je vais avoir 40 ans là, donc les gens qui sont un peu comme moi, qui ont des enfants, ben en fait, nos enfants à nous, souvent d'ailleurs nés dans des couples mixtes, à l'image de ce qu'est la France aujourd'hui, ben en fait, qu'est-ce qu'on va leur transmettre ? Qu'est-ce qu'ils vont avoir, finalement, de ce patrimoine qui, pour elles ou pour eux, est un patrimoine qui sera peut-être assez lointain ? Moi, je ne vais pas aller tous les étés au Liban avec ma fille, parce que je n'ai pas un lien suffisamment fort avec le Liban pour le faire. Il n'est pas sûr que les enfants d'immigrés marocains retournent tous les étés au Maroc, peut-être un été sur deux, puis un été sur trois, puis ensuite... Ça sera la vie, ça sera pas toujours comme ça. Et donc, qu'est-ce que ces enfants, on va leur transmettre ? Ça, c'est une question à laquelle j'ai pas de réponse. Moi, je sais que pour moi-même, ce livre m'a permis une chose, c'est d'essayer de mettre l'arabe à la juste place dans ma vie, de comprendre que c'est pas grave si j'étais pas bilingue arabe de la manière dont j'étais bilingue en anglais ou en espagnol, et qu'en fait, si je parle un arabe peut-être de mauvaise qualité, un arabe haché, un arabe domestique de la maison, que ce que je sais dire surtout, c'est va te laver les mains et finis ton assiette, bah peut-être que c'est pas grave et que c'est déjà bien, et qu'en fait cet arabe-là, il faut que je le chérisse et que je le cultive, et pas que j'essaye d'en faire absolument la déclinaison de ce que je sais faire dans d'autres langues. Et finalement, c'est un peu ce que je fais avec ma fille, c'est-à-dire que, bah oui, il y a des mots d'arabe qui existent dans notre vie, mais j'ai pas envie de l'obliger à apprendre l'arabe. Après tout, c'est pas parce que moi, je me pose des questions vis-à-vis de cette langue qu'elle est obligée de se poser les mêmes questions. J'ai aussi envie de lui ouvrir des horizons, de lui montrer que ça existe, que c'est présent dans notre vie, et qu'aussi elle puisse choisir ce qu'elle a envie de faire. Et si elle a envie d'apprendre l'arabe, et si elle a envie de se passionner pour ça, bah tant mieux. Et si elle a envie de se passionner pour le russe ou pour le portugais, ben bah, ça sera aussi très bien, et elle se sera ouvert d'autres horizons. Simplement, voilà, j'ai envie qu'elle ait le choix, qu'elle ait cette liberté de se dire, bah en fait, je peux décider de creuser ce sillon de mes origines, ou je peux décider d'en creuser un autre qui sera le mien, et ça sera très bien aussi.
C'est un beau message de tolérance que tu donnes là. Qu'est-ce que tu dirais aux auditeurs et aux auditrices qui, comme moi dans mon adolescence et comme toi, ont traversé ces obstacles-là et ces questionnements sur la langue ?
Non, mais je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, ce que j'ai compris, notamment en allant voir des linguistes, c'est qu'en fait, si on veut apprendre une langue, on peut. C'est possible et à n'importe quel âge. Oui, on peut perdre sa langue maternelle. Oui, on peut oublier une langue qu'on a apprise. Mais par contre, on peut toujours réapprendre. Le cerveau humain est formidable. Simplement, il faut travailler et il faut s'immerger dans la langue. Et donc ça, c'est ce que moi, par exemple, je n'ai pas vraiment réussi à faire. Mais je sais maintenant que si j'allais au Liban pendant 3 mois, eh ben en fait, je ne deviendrais pas bilingue en arabe libanais, mais beaucoup de choses me reviendraient. Et ça, je crois que c'est vrai pour beaucoup de gens issus de l'immigration. La question, c'est pas de se dire « Oh là là, je suis nul parce que je parle pas l'arabe », c'est plutôt de se dire « Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec l'arabe ? Quelle place j'ai envie que ça occupe dans ma vie ?» Si on a envie que ça occupe une place centrale, ben en fait, la solution, c'est souvent d'aller y passer du temps dans le monde arabe et de travailler cette langue-là et de travailler ses options professionnelles peut-être dans cette langue-là ou scolaire. Donc ça, je pense que c'est important de se dire que c'est possible et que peut-être que c'est pas maintenant, peut-être que c'est plus tard, mais qu'en fait, c'est toujours possible. Ça, c'est la première chose. Et après, je pense que c'est plus une question de se dire aussi comment j'ai envie de mettre en avant et partager ma culture d'origine. Et dans la culture d'origine, comme je le disais, il y a plein de choses différentes. La langue, c'est un seul des aspects, mais la nourriture, la littérature, le cinéma, la manière de parler, tout ça, c'est des choses aussi qui viennent de ces cultures-là et qu'on peut partager avec d'autres. Et qu'on peut d'une certaine manière aussi diffusée, même si on n'est pas bilingue dans sa langue. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles on doit s'appuyer. Ce que j'ai appris aussi en écrivant ce livre, c'est que, y compris les enfants d'immigrés venus du monde arabe, ont aussi une forme de complexe et de méconnaissance vis-à-vis des cultures du monde arabe. Et ça, je crois que c'est vraiment intéressant d'essayer de s'y intéresser et de rendre ces sujets-là publics, les films, les livres, les podcasts, les sujets de débat qui existent dans le monde arabe et qui sont plus complexes que les caricatures qui en sont souvent faites dans le débat français. Et ça, je crois que ça peut être une vraie richesse et que c'est utile pour les enfants issus de l'immigration, mais aussi pour l'ensemble de la société française, de mieux comprendre la nature et la complexité de ce qui se passe dans le monde arabe.
Merci infiniment, Nabil, pour tes mots, pour son livre et tout le travail que tu fais pour valoriser nos identités tellement diverses.
Merci beaucoup.
Merci encore à Nabil Wakim et aux auditrices Magda et Louisa qui nous ont partagé un bout de leur histoire. Cet épisode est terminé. Si tu veux approfondir la question des langues, tu peux écouter l'épisode Voix d'ici et d'ailleurs du podcast Il était des voix, auquel j'ai participé à la Gaîté Lyrique avec le Paris Podcast Festival. Nous avons parlé accent, langue maternelle, mépris de classe et glottophobie avec Julie Lafitte, autrice de Trouver sa voix, où elle explore son rapport à son accent toulousain, et le linguiste Philippe Blanchet. C'était très enrichissant et tu peux retrouver ça sur toutes les plateformes d'écoute. Nana Podcast est produit à Marseille par le label Popcast, ça s'écrit NA3 Podcast, et si tu veux nous aider à continuer le projet, partage, suis-nous sur les réseaux sociaux, et si le cœur t'en dit, mets-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. À nos identités plurielles et bislama !